Votre rendez-vous scientifique cette semaine, c'est l'Atome de Savoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'exposition Concept Cars pour parler voitures autonomes. Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'Atome de Savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Et si votre chauffeur était un algorithme ? La fiction devient presque réalité avec la voiture autonome. Pour discuter de la place de ces machines fascinantes dans la société de demain, nous sommes à l'hôtel des Invalides à l'occasion de l'exposition Concept Cars et en bonne compagnie puisque Anne Asensio est au micro de l'Atome de Savoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de design d'Asso Systems, précédemment directrice exécutive du design chez General Motors. Et avec nous également Philippe Nemeth, consultant et formateur en design industriel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je vous présente Lou qui nous accompagnera tout au long de cette émission.
Bonsoir, bonsoir Gaspard, bonsoir à tous. Au cours de cette émission, nous écouterons également un extrait de notre entretien avec Jean-François Bonnefond, directeur en psychologie cognitive et directeur de recherche à la Toulouse School of Economics, co-créateur de Moral Machine, le site qui vous demande quelle décision doit prendre une voiture autonome en cas de dilemme. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez retrouver dès samedi l'intégralité de son interview sur notre page web radiocampusparis.org/l'atome de savoir. Tout à l'heure, Guillaume et Jade vous présenteront l'exposition Concept Car qui nous accueille aujourd'hui et vous pourrez vous rendre jusqu'au 2 février. En fin d'émission, Vadim nous parlera chiffrement et cryptographie dans sa chronique de vulgarisation.
Transpolis est une plateforme de recherche et d'innovation mutualisée, utilisée à la fois par la recherche académique et par la recherche industrielle pour tester et expérimenter la mobilité, les moyens, les outils de mobilité de demain pour préparer l'avenir avec en particulier les véhicules et les navettes autonomes, mais aussi les autres moyens de mobilité. Nous avons aujourd'hui la capacité sur cette plateforme d'avoir des études de cas qui seront testées sur la ville avec des dizaines de kilomètres de rues, de boulevards périphériques qui pourront être mise à contribution pour les recherches à la fois de nos chercheurs mais aussi des industriels.
Un extrait de la chaîne YouTube de l'université Gustave Eiffel. Nos parents ont dû se familiariser avec le smartphone et nous, génération Y, devrons certainement apprendre à vivre avec les voitures autonomes. Et nos enfants se moqueront bien de nous lorsqu'on aura du mal à se laisser conduire par un programme développé par des ingénieurs du monde entier. Je vous l'accorde, à une époque où on devrait réduire la production et l'utilisation de la voiture, on peut s'interroger sur la pertinence de telles recherches. Cela dit, développer des voitures plus performantes n'est pas forcément incompatible avec une réduction des pollutions associées. Les constructeurs automobiles y travaillent, on a pu le constater aujourd'hui à l'exposition Concept Cars. Alors, cette voiture autonome, c'est pour quand ? Eh bien, difficile de répondre à cette question, car il existe 5 niveaux d'autonomie reconnus. Ils ont été établis en 2018 par la SAE, Society of Automotive Engineers, aux États-Unis. Vous possédez peut-être vous-même une voiture autonome de niveau 1, 2 ou 3. Le niveau 1 regroupe les véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite de base, tels que le détecteur d'angle mort ou le régulateur de vitesse. Si votre voiture est capable de faire un créneau toute seule ou de changer de voie lorsque vous actionnez le clignotant, elle est de niveau 2. Et si vous pouvez lâcher le volant dans certaines situations, c'est un niveau 3. Sur les voitures de niveau 4, la supervision du conducteur n'est plus obligatoire, mais il doit pouvoir reprendre le volant dès que la voiture le demande. Enfin, le niveau 5, c'est l'autonomie totale du véhicule. Bien sûr, ces deux derniers niveaux sont encore en cours de développement un peu partout dans le monde. En France, des tests ont lieu dans certaines agglomérations, en province et à Transpolis, dont on vient d'écouter un extrait. Plus le niveau d'autonomie est élevé, plus les recherches sont importantes et coûteuses. C'est là que de nouveaux acteurs entrent en scène. Google, Uber et peut-être Apple sont en tête de la course à l'élaboration de la voiture autonome aux côtés de Volvo, Tesla et Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz. A noter que la plupart des grands constructeurs développent également des voitures autonomes. Enfin, pour fluidifier le trafic, l'idée est de connecter ces drôles d'engins entre eux et avec tout ou partie du mobilier urbain. Un projet réalisable uniquement après l'arrivée de la 5G. Autant dire qu'on a du pain sur la planche.
L'Atome de Savoir sur Radio Campus Paris.
Rebonsoir à nos deux invités. Nous sommes donc toujours à Concept Car Expo. Je m'excuse encore pour cette émission qui est enregistrée dans des conditions difficiles en raison de la manifestation contre la réforme des retraites qui se déroule juste à côté de nous. Nous allons donc commencer ce premier entretien sur les investissements aujourd'hui pour les changements de demain en termes de transport et de transport particulier. Alors une fois finalisée et mise sur le marché, quel serait le prix d'entrée de gamme d'une voiture autonome, Philippe Nemeth ?
Oula, c'est une question un petit peu difficile à répondre, de qualifier, enfin de quantifier un prix. Je pense que l'angle d'attaque, il serait peut-être aussi intéressant de voir l'évolution de la mobilité plutôt que de juste se focaliser sur la voiture autonome. Je pense que de plus en plus, les constructeurs travaillent de façon transversale avec les équipementiers et avec les sociétés spécialisées telles Google, Microsoft ou autres pour faire évoluer la voiture autonome. Donc, est-ce que la voiture autonome 5.0, enfin niveau 5, est une fin en soi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est très difficile de quantifier le prix de la voiture qui ne serait pas forcément cher. Mais le problème, c'est que la voiture doit être compatible avec la route. Donc la voiture toute seule, c'est quelques capteurs en plus. C'est pas forcément un énorme investissement. Ce qu'il faut, c'est que la ville, les routes, les départements, les pays investissent en même temps.
Donc c'est un problème global, Anna Sensio.
Oui, tout à fait. Je reviens et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe. La question de la voiture autonome s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global qui inscrit donc ces aspects d'infrastructure. On ne pourra pas chiffrer finalement la voiture autonome de manière isolée, ça c'est très clair. Donc je reviens tout à fait sur ce sujet-là. Par contre, je pense que de penser prix, c'est pas une bonne approche dans la mesure où un prix est souvent associé à un usage et à une valeur de cet usage. Et aujourd'hui, la voiture autonome n'existe pas. On aura encore beaucoup de mal à imaginer, d'ailleurs, à la voir apparaître. Je pense qu'on a eu un grand engouement à voir la voiture autonome, à en parler. Aujourd'hui, le nouveau 5 semble comme très inaccessible, pas pour des raisons technologiques. La voiture autonome, c'est pas bien évidemment une voiture avec plus de capteurs. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'elle intègre cette dimension pratiquement imprévisible de l'humain dans la manière où elle sera à intégrer dans des usages à la fois automatiques et humains. On en a pour meilleur exemple les effets des trains automatiques qu'on ne peut pas faire fonctionner avec des trains pilotés par des humains. Donc il y a une incompatibilité aujourd'hui à faire une biodiversité ou une technodiversité de véhicules autonomes et d'autres véhicules qui ne le seraient pas. Ça, c'est la vraie difficulté.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on ne passe pas au tout autonome, on ne peut pas mettre en place la voiture autonome.
En fin de compte, je crois qu'on va devoir à un moment donné se diriger vers des secteurs qui seront dédiés à l'autonomie et qui seraient éventuellement donc complètement dans un cas d'exclusion de ce qui pourrait être la conduite humaine. L'humain, en fin de compte, a un comportement qui va beaucoup plus loin que la machine. Donc deux machines entre elles, en design ou en ingénierie de système, on sait le gérer. Mais un système complexe avec des ouvertures ouvertes, c'est-à-dire avec des comportements imprévisibles, ça c'est très très difficile. Donc on pourra peut-être voir et envisager des secteurs dans les villes pour lesquels il y aura des infrastructures dédiées pour la voiture autonome. Mais comme on ne pourra pas rendre autonomes tous les véhicules d'un seul coup, ça c'est absolument impossible, la transition fera que ça se fera par des définitions territoriales et très clairement ce n'est pas une problématique technique en soi de la voiture en elle-même.
Est-ce que vous pensez qu'on devra dire un jour adieu à notre voiture personnelle ?
Personnellement, je ne le crois pas. Je suis designer. Ça m'intéresserait de voir continuer, je dirais, cette notion d'appropriation. Par contre, ça ne sera pas la seule offre possible. Je pense que la plupart des cas, les gens ont besoin de se déplacer, utilisent la voiture toujours de manière très utile, de manière très versatile aussi, dans des contextes d'intermodalité, c'est-à-dire, encore une fois, en ayant une diversité des usages mobiles. Mais il reste une chose, c'est que la voiture ne peut pas être uniquement vue comme un objet technique ou technologique. C'est aussi un objet symbolique, un objet de culture, un objet d'art. C'est d'ailleurs pour ça que cette exposition, à l'occasion du festival et de cette exposition des concept cars, c'est aussi le moyen de se rendre compte que c'est bien plus qu'un objet technique. Et dans cette dimension symbolique, dans cette dimension de relation affective que l'on peut avoir avec les objets du quotidien, cette relation qui est organisée entre ces aspects techniques et nos usages du quotidien, c'est ce que les designers proposent assez souvent, eh bien, je crois qu'il y aura toujours une sorte d'affect, une nécessité finalement de rester proche de ces objets. Je voudrais aussi dire simplement une chose. On a toujours tendance, lorsque l'on parle d'une technologie, à vouloir effacer la technologie précédente. Ça ne s'est jamais produit. On peut parler, par exemple, en musique, de l'évolution des supports pour la musique. On voit un regain du vinyle. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la technologie n'efface pas la technologie précédente. Elle ne vient qu'en layer supplémentaire, enfin en couche supplémentaire. Et que donc la voiture particulière, très investie, affective, pour laquelle il y a eu une création assez personnalisée ou un choix au moment de l'acte d'achat, eh bien c'est de l'ordre de l'affectif, de l'humain, des imaginaires, de la symbolique, du rituel, qui sont, des conditions vraiment d'humanité. Et ça restera. Alors, est-ce que ça se manifestera comme aujourd'hui ? Probablement pas, puisque la voiture va devoir finalement se fragmenter à nouveau entre une offre peut-être désaffectée, utilitaire, voiture de partage pour laquelle on n'a pratiquement aucun intérêt, et une voiture auquel on aura un réel affect. Et ça, à mon avis, ça devra rester. Ça pourra évoluer tout de même.
Oui, surtout quand on voit que des entreprises comme Uber investissent beaucoup dans la voiture autonome, on peut penser qu'il y aura peut-être moins de voitures personnel dans l'avenir. En tout cas, l'avenir nous le dira. Maintenant, on va quand même certainement en acheter des voitures autonomes, peut-être pas de niveau 5, mais au moins de niveau 4. Je vais vous faire écouter un extrait de l'interview avec Jean-François Bonnefond qui répondait à cette question: comment donner envie aux gens d'utiliser une voiture autonome ?
Moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est est-ce qu'il y a des craintes irrationnelles, par exemple en termes de sécurité ou des attentes qui sont démesurées. Et une des choses que j'ai observées avec mes collègues, c'est que les attentes en matière de sécurité, quand les gens font les voitures autonomes, sont un peu irréalistes. Les exigences, disons, qu'ils ont. C'est peut-être un peu la faute de tout le discours qu'il y a eu autour de la sécurité des voitures autonomes, parce qu'il y a ce chiffre que tout le monde a brandi à un moment ou à un autre, de dire qu'à terme, peut-être qu'on arriverait à éliminer 95% des accidents, ou 90%, ou 98%, ça dépend des gens. Vous voyez, on a commencé à dire aux gens qu'un jour, les voitures autonomes élimineraient quasiment tous les accidents. Et si vous voulez, quand vous dites ça aux gens, ben, ils l'entendent et ils prennent ça un peu comme point de comparaison. Et maintenant, ils se disent, si on leur dit, bah, là, on a une voiture autonome qui élimine 10% des accidents, ça les séduit plus vraiment.
Philippe Némette, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Comment on peut donner envie aux gens d'utiliser une voiture autonome après les actualités qu'on a entendues ?
Ce qui est intéressant, pour revenir à l'exposition de Concept Car, ici, l'Hôtel des Invalides, c'est qu'il y a deux des principaux concept cars présentés, Citroën 1919 et la Bentley X100, qui sont des voitures, qui sont des concept cars qui préfigurent la voiture 100% autonome. Elles sont toutes les deux très racées en termes de silhouette. Je pense que pendant beaucoup d'années, beaucoup de temps, on se dit la voiture autonome, ça va être la cabine téléphonique. Et le parti pris de Bentley particulièrement, c'est non, la voiture autonome, elle peut être spectaculaire, elle peut être sexy, elle peut être longue. Et cette Bentley qui est présentée ici, c'est également un clin d'œil aux 100 ans de la marque, comme la Citroën. Et donc c'est assez intéressant à nouveau de voir ce parti pris que voiture autonome, elle peut avoir un long capot, elle peut être effilée, elle peut être désirable, comme Anne le disait tout à l'heure, le côté affect est très important. Donc je pense que si c'est de la propriété, ou si on a envie de se montrer, ou si on a envie de le côté plaisir du déplacement, je reviens à Bentley. Un des fondamentaux de ce projet, c'est l'expérience du voyage. Et l'expérience du voyage, c'est ça commence par l'entrée à bord de cette voiture, même si on voit pas l'extérieur de l'intérieur. Donc je pense que l'idée que la voiture autonome doit être le petit cube, c'est sans doute pas la bonne approche. Le designer en chef de Bentley, Stefan Silaf, disait, on lui a posé les questions, oui, mais les portes qui font 2 mètres de longueur, quand elles s'ouvrent, elles font 3 mètres. Donc ça ne peut pas rentrer dans le garage. Oui, mais la voiture, elle est autonome. La voiture vous dépose devant le théâtre et elle va se garer gentiment. Donc en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Et pendant des décennies et des décennies, les ingénieurs, les designers ont travaillé sur l'ergonomie, comment faire les portes les plus pratiques, coulissantes, et ce qui est très cher en automobile.
Donc on a à la fois un souci sociologique, travailler sur les chiffres, la communication sur ces chiffres, comme le disait Jean-François Bonnefond, et aussi un côté très esthétique de cette voiture autonome qui ouvre de nouvelles perspectives en termes de design.
On parle de voiture et je suis en effet tout à fait d'accord avec le fait que on va pas s'enfermer avec un modèle de design de type cubique, mais je voudrais simplement signaler que si la voiture est autonome, elle n'est pas forcément achetée. Et c'est là où il y a quelque chose d'absolument important à signaler, c'est que la voiture autonome nous amène à une nouvelle approche de l'usage de l'automobile qui passe de l'acte d'achat, l'ownership, comme on dit en américain, et pour passer vers des systèmes de partage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la voiture devient un aspect terminal d'un service. Un service qui pourra commencer par une application digitale, et donc dont l'expérience finalement du choix du partage de son véhicule commencera par le choix de type de véhicule ou d'environnement de marque ou d'expérience de marque dans lequel s'inscrira finalement l'offre digitale. Typiquement, c'est comme en avion. On aura des offres premium où on se souciera de l'aspect de sa voiture autonome, voire de sa taille, voire avec qui on partagera dans le cadre du partage, voire des voitures autonomes totalement individualisées de type premium, pour lesquelles donc il y aura ce souci à la fois d'esthétique et de bien évidemment associé à un prix, et non pas du véhicule, mais de l'usage de ce véhicule, ou bien au contraire, un service vraiment accessible à tous, qui sera peut-être sous la forme de ces petits pods dont on parle, très agiles, très mobiles, qui iront partout, qui seront toujours prêts à répondre à nos exigences, pratiquement au clic près. Donc vous voyez, vous avez ce panorama possible que la voiture autonome pourra produire pour une raison toute simple, comme vous l'avez dit, Gaspard, c'est la notion de sociologie. C'est-à-dire qu'une même personne pourra utiliser un cube et le lendemain rouler en Bentley. La voiture autonome permet des choses qui vont bien au-delà de ce que permettait finalement l'acte d'achat très personnalisé, mais dont on ne pouvait pas forcément... Il y avait cette notion de versatilité qui fait que à servir à tout, ça ne servait jamais bien toujours à ce qu'on souhaitait. Donc la voiture autonome, c'est peut-être une forme d'autonomie très nouvelle qui va nous permettre finalement de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de choix, mais dans une dimension qui va au-delà du véhicule lui-même.
Alors, une question quant à le souci environnemental. Comment faire en sorte que la voiture autonome ait une place dans un monde écologique? Et cette question s'adresse à vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne?
C'est très très simple. Aujourd'hui, on sait le nombre de voitures qui sont garées dans Paris et qui ne servent pratiquement jamais. On a fait le même calcul lorsqu'on a fait le projet Puma avec, à l'époque, c'était au MIT, au Media Lab. On constate que finalement, beaucoup de voitures achetées sont en fin de compte des voitures qui restent pour la plupart du temps garées en parking et ne roulent pas. Donc très clairement, le direct impact d'une voiture autonome, c'est beaucoup plus de véhicules qui roulent, mais en fin de compte, une réduction considérable par rapport à l'usage des personnes en mobilité.
Oui, je partage totalement et je ferai un parallèle avec l'aviation. Anne a parlé d'aviation tout à l'heure, où il n'y a rien de pire pour un avion que de rester à l'aéroport. Il faut que l'avion soit en l'air. C'est pareil pour un bateau, il doit naviguer. Donc le souci de toutes les compagnies aériennes et toutes les compagnies de maritimes, c'est que d'optimiser que le bateau ou l'avion soit en l'air ou soit dans l'eau le plus de temps possible. Et pour la voiture, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on partage la voiture, si la même voiture fonctionne 10 ou 12 heures par jour par rapport à une heure, forcément elle est écologique, parce qu'il y aura moins de voitures.
Je voudrais juste te dire une chose, c'est qu'on parle beaucoup de design, on parle de technologie, on parle de l'objet. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on vient d'évoquer des notions de partage, des notions d'expérience, et en fin de compte, et d'infrastructure. Donc en fin de compte, aujourd'hui, le rôle du designer, c'est de designer des systèmes, et des systèmes de systèmes. Parce que ce qui va fonctionner correctement, c'est la gestion d'une flotte, c'est la façon dont on va créer finalement une offre de partage très différenciée qui va satisfaire tout le monde, et tout ça jusqu'à nos outils digitaux qu'on a dans nos poches. Donc on va aller du smartphone à la voiture autonome. Ça, très clairement, c'est une forme de design que j'aime appeler le design de l'expérience, ça passe par la gestion des systèmes et des systèmes complexes. Ce qui va probablement un petit peu modifier à la fois l'interaction des designers avec les ingénieurs et toutes les sciences, finalement, qui nous amènent à gérer des systèmes complexes.
Oui, j'aimerais ajouter une Philippe, toute petite chose. Regardez l'expérience, enfin vos expériences. Combien de conducteurs utilisent une application telle que Google Maps ou Waze plutôt que le GPS intégré ? Une voiture, c'est 2, 3, 3 ans et demi de conception entre la première esquisse et la voiture sortie d'usine. C'est énorme, 3 ans, par rapport à la rapidité d'évolution technologique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Qui aurait dit il y a 10 ans que finalement le petit smartphone est beaucoup plus performant que le gros écran avec le GPS intégré de la grosse Audi ou Mercedes il y a à peine 10 ans. Et je parlais du concept car Citroën 1919, l'Ami One les designers ont développé quelque chose d'assez intéressant. En fait, on utilise son propre smartphone, on le pose au-dessus du volant et par un effet, un simple miroir, donc il y a un système de recharge par induction. Et un simple miroir permet de voir son écran. Donc on se passe de toute cette technologie embarquée, finalement qui ne sert pas à grand-chose dans la mesure où le smartphone est plus puissant que la technologie. Donc, à nouveau, c'est juste observer. Observer combien de personnes ont des voitures de 10 ans avec un beau GPS intégré, mais ont le petit GPS TomTom ou Garmin qui est beaucoup plus efficace. Et le téléphone, le smartphone encore plus.
Merci à tous les deux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Campus Paris. Ce soir, l'Atome de Savoir se déroule à l'exposition Concept Cars. Tout de suite, le regard de Guillaume et Jade sur l'événement.
Bienvenue au salon Concept Car Auto Festival Automobile International. Je suis avec Jade et nous allons vous faire visiter ce salon qui est rempli de véhicules plus futuristes les uns que les autres.
Alors, je suis Rémi Depoix. Je suis le fondateur et le président du Festival Automobile International. C'est une exposition qui est basée sur les grandes tendances du design automobile qui sont concrétisées par l'exposition de concept car ou de hyper car et super car dont on parle aujourd'hui, mais qui sont des voitures d'exception et qui représentent le summum de la création de l'année qui passe. Alors, les concept cars qu'on présente sont bien évidemment les recherches ultimes souvent d'un point de vue technologique pour les voitures, notamment sur les domaines de l'énergie. C'est souvent des voitures qui sont soit électriques, soit même parfois hydrogènes, et qui sur le plan environnemental répondent aux dernières exigences européennes, notamment les directives européennes. C'est sur le style, car les voitures vont évoluer dans le temps, les voitures vont être dans quelques années probablement autonomes. Donc bien sûr, c'est la création s'en ressent d'autant. Une voiture électrique, par exemple, ça n'a pas de moteur, ça n'a pas de boîte de vitesse, donc ça laisse libre cours à l'imagination des designers avec des volumes qui sont différents, des volumes intérieurs notamment. Et l'intérieur est très important aujourd'hui parce que c'est le prolongement de la maison, c'est une nouvelle pièce de vie. Et lorsque les voitures seront autonomes, on va vivre dans un salon roulant. Donc l'imagination des designers, elle est sans limite parce qu'il faut créer ces nouveaux intérieurs. C'est les créations ultimes des marques automobiles.
Justement, dans le design d'intérieur et même d'extérieur, Bentley nous propose une voiture vraiment splendide, avec un intérieur avec seulement 3 sièges, mais le siège avant, donc pas le siège conducteur, mais l'autre, qui se recule pour aller soit au niveau du siège conducteur, soit au niveau du siège arrière.
Un intérieur très futuriste, très élégant, qui n'est pas trop technologique. On pourrait avoir peur et se dire qu'il y a des écrans partout et avoir l'impression d'être dans une navette spatiale. Et c'est absolument pas le cas, c'est vraiment très raffiné.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la reine du salon, la voiture noire ?
Alors, la voiture noire, alors ça, on a beaucoup écrit sur cette voiture. Bugatti a souhaité de cette marque mythique qui a toujours créé des voitures absolument extraordinaires, bah, ils ont décidé de faire la nouvelle génération de cette Bugatti, d'en faire un exemplaire. On a dit, mais c'est une rumeur, qu'elle vaudrait 16 millions de dollars, que il y a un exemplaire, qu'il y a eu un acheteur. Mais voilà, c'est aussi la façon de Bugatti de montrer qu'aujourd'hui, en 2020, la magie se poursuit dans la création des voitures. C'est une marque absolument extraordinaire. Et Bugatti montre aujourd'hui que non seulement ils savent faire des excellentes voitures qui sont ultra performantes, adossées au groupe Volkswagen, donc ils ont une technologie globale qui leur permet de capter toutes les innovations, et puis d'un design extraordinaire. Et c'est aussi un succès commercial, parce que toutes les voitures sont vendues, et toutes celles qui ont été créées il y a 10-15 ans sont des voitures de collection aujourd'hui, dont la cote est très importante.
Et comment sélectionnez-vous les voitures qui participent à cette exposition ?
On les sélectionne en fonction de l'actualité, hein, des marques. Il n'y a pas toutes les marques n'ont pas chaque année systématiquement un concept car ou d'autres, donc on a un espace limité parce qu'on privilégie la qualité à la quantité. Donc vous savez, 3000 m² déjà, on arrive à avoir environ 35 voitures. On n'en veut pas plus. On veut que le public puisse les avoir à 1m2, ce qui n'est pas souvent le cas dans des salons. On les expose donc comme des sculptures. Il y a du monde, on attend près de 40 000 visiteurs.
Un autre coup de cœur qu'on a eu, c'est pour une Lamborghini concept car qui est absolument magnifique. Et il y a des lignes qui sont très très futuristes. C'est une structure qui est assez rectiligne, très linéaire en fait. Il y a très peu de courbes. Et c'est clairement un modèle que vous n'utiliserez pas pour rouler en ville, parce que si vous croisez un Dodan, vous tuez littéralement la voiture. Mais c'est vraiment quelque chose de très élégant, mais qui est beaucoup plus orienté course quand même.
Un reportage de Guillaume et Jade.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Deuxième partie de l'atome de savoir, toujours à l'exposition Concept Cars, le rendez-vous annuel du design automobile avec Anne Asensio, vice-présidente du design chez Dassault Systèmes, et Philippe Nemeth, consultant et formateur en design industriel. Nous parlions tout à l'heure des financements de projets de voitures autonomes et de ce que ça va changer dans le quotidien de millions d'individus. Nous allons maintenant nous pencher sur tout ce qui est technique, design et surtout la sécurité, là où le bât blesse dans l'image de la voiture autonome. Alors nous allons remplacer les chauffeurs humains par des machines. Mais quels avantages ont les machines par rapport aux humains, Anne Asensio ?
Elles sont prévisibles, on peut les programmer, elles font exactement ce qu'on leur demande, mais c'est bien ce qui fait peur aux humains. Parce qu'un humain est imprévisible, mais ce n'est pas parce qu'il le souhaite, c'est tout simplement parce qu'il a une capacité d'interaction avec le reste du monde, dans l'environnement, de s'adapter, d'être agile, et de le faire avec une compréhension très très fine et très élaborée de ce qui se passe, de cette notion cognitive. Tous ces micro-gestes, tous ces signaux faibles qui font que finalement on va avoir cette petite antenne. Je suis moi-même personnellement motarde et je suis toujours étonnée de voir et de sentir des choses que je ne vois pas. Donc de donner comme ça toute cette capacité d'être au monde, hein, d'être dans son environnement et de le reléguer à une machine dont on sait que les interactions que l'on a au quotidien avec toutes les meilleures et les plus expérimentées, on sait qu'une machine bug. On sait que les machines n'offrent pas toujours la promesse d'une continuité parfaite. On est souvent énervé avec une cafetière, avec, je ne sais pas, même avec son smartphone. Donc, je crois que de là réside une certaine suspicion à la promesse d'un bonheur parfait avec ce qui pourrait être de l'ordre de la robotique ou de l'automation.
Philippe Nemeth.
Les gens de Tesla ne vont pas m'aimer beaucoup. Il y a en Suisse l'autoroute qui va de Genève à Vevey, qui est l'autoroute des Tesla. C'est sans doute l'endroit en Europe où il y a le plus de Tesla, parce que les habitants de Genève, certains ont les moyens d'acheter ces voitures relativement chères. Et il y a eu, la presse n'en a pas forcément beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'accidents. Pas des accidents graves. Où la voiture était en mode autonome, et le réflexe du conducteur pour rattraper la voiture en cas de ligne blanche qui est discontinue, le réflexe du conducteur était trop lent. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça c'est la voiture manuelle. Alors, je pense, l'énorme travail des designers d'intérieur, des designers d'expérience, c'est aussi cette translation entre le mode autonome et manuel. Tous les concept cars qui sont présentés ont un mode manuel. Et c'est un petit peu comment on va faire cette translation. Est-ce que tout d'un coup, la machine bug? Comment on va reprendre la main? Si le volant est replié et que je suis allongé dans ma méridienne, les 3 secondes pour me relever, c'est évidemment beaucoup trop long. Mm-hmm. Donc c'est un point auquel il faut quand même réfléchir. Autre chose, vous allez dire, je dérive un petit peu. Ma génération, si je m'assois à l'arrière d'une voiture, je ne mets pas la ceinture, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai l'habitude. Je me mets à l'arrière d'un combi Volkswagen sur la banquette, comme ça, quand j'étais gamin. Vous, vous allez être mal à l'aise. Il n'y a pas de ceinture, etc. Alors, si jamais la voiture autonome fonctionne, la voiture autonome est sûre et prouvée, il n'y aura plus besoin de ceinture de sécurité. Il n'y aura plus besoin d'airbag. Il n'y aura plus besoin de tous ces systèmes de sécurité passive à partir du moment où on évitera l'accident. Mais comme le disait Anne, on en est quand même assez loin. Et il faut imaginer que les machines bug et au premier accident corporel, le château de cartes s'écroulera. Deuxième chose qui... Je voulais placer tout à l'heure, donc je le place là. J'enseigne beaucoup en Inde, à Pune notamment. Donc j'ai des étudiants qui font des études de 5 années pour devenir designer transport, mobilité, automobile. Et ils ont une problématique très différente. Très, très différente. Et les marchés en croissance, les marchés chinois, les marchés indiens, les marchés asiatiques, les marchés sud-américains, ils sont très, très, très loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Mais c'est quand même, on se dit, la France avec nos 2 millions de voitures, oui, on renouvelle un petit peu le parc, on va avoir quelques pourcentages de voitures électriques, machin. Et il y a plus d'un milliard d'Indiens qui aspirent à qu'une chose, c'est d'avoir leur petite voiture personnelle et l'autonomie, on en est très loin. Donc c'est toujours à prendre aussi en considération.
Là, c'est un point très important, c'est qu'on parle de voiture autonome, on néglige la dimension infrastructure et la dimension sociologique, qui sont les deux sujets que tu apportes, Philippe. Très clairement, ce qui me fascine le plus, c'est comment on ne prend pas en compte toute cette diversité d'infrastructures nécessaires. C'est-à-dire que les règles de conduite, les règles de comportement, les règles même... qu'est-ce que c'est qu'une route et une rue? Cette définition là en France, de manière très claire, vous l'exportez en Inde, pour prendre l'Inde comme exemple, et ça n'a plus rien à voir. Regardez simplement ce qui se passe sur le bord des routes et des rues en Inde. Il y a là très clairement tout un travail qui est bien plus grand que simplement ce simple problème, je dirais technologique, de résoudre des problèmes de capteurs et voire même de perception dont on parlait précédemment, de ce que, est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je fais confiance à la machine, même si j'ai un robot qui se transformerait en concierge ou en pilote ou en chauffeur, parce que c'est aussi des pistes qui sont élaborées, c'est-à-dire que la voiture reproduirait par le fait d'un robot la possibilité d'être conduite par une sorte d'humanoïde, parce qu'il y a aussi ces possibilités-là, ça ne suffira pas. La problématique, en fin de compte, c'est le territoire, c'est la culture, c'est la diversité, finalement, de la perception de ce qu'est une mobilité. Et donc là, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et ça va bien évidemment bien au-delà de la technologie.
Je rebondis sur ce que Anne disait, sur la problématique d'avoir des zones. Si on peut pas avoir, on peut pas difficilement imaginer des zones avec une mixité de voitures autonomes et non autonomes. On va essayer en Inde ou en Chine, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr qu'il y aura un moment ou un autre... Peut-être que la voiture autonome ne rentrera pas dans la voiture conduite manuellement, mais ça va être le contraire. Vous allez à Tokyo, sur les trottoirs, il n'y a pas de problème. Il y a des cyclistes, il y a des piétons, et ça se passe très bien. Ils ne s'engueulent pas, tout va bien. Vous allez sur une piste cyclable ou d'autobus à Paris, vous allez avoir la trottinette électrique qui file à 40 ou 50 km/h, le cycliste électrique, le cycliste classique, le piéton si c'est une partie trottoir. Si vous allez en Allemagne, c'est pas très loin l'Allemagne, si vous osez, en tant que piéton, marcher sur une voie de vélo, on va vous engueuler, mais de toute façon, on va même vous donner un coup de pied aux fesses, physiquement. Et donc, c'est assez intéressant, ça rejoint complètement ce que Anne disait. Là, finalement, la cohabitation de différents modes de transport, dans un pays culturellement comme le Japon, il n'y a pas de problème. parce que les gens vont être respectueux, ils vont... En Inde, ça ne marchera pas.
Donc ça, ça nous amène à quelque chose qui est très important, on l'a bien vu. Pour que ça fonctionne et pour que les investissements puissent être suffisamment élevés, il faut une forme d'universalisme, c'est-à-dire arriver à une sorte de guideline, de standard, de ce que pourrait être considéré comme une forme d'autonomie relativement globalisée. On en est très, 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 très loin. Pas parce qu'on ne sait pas le faire techniquement, encore une fois, mais c'est simplement que l'application pour un constructeur de l'ensemble de ces normes, aujourd'hui, avec le niveau de diversité, moi, je me souviens, en travaillant chez General Motors, la plus grande difficulté, c'était pas finalement même de faire le produit, c'était de s'assurer qu'il puisse être vendu dans tous les marchés. Parce que chaque marché devait être, avait ses propres régulations, fallait faire des certifications, et ça demandait des efforts considérables et surtout des ressources financières considérables. Donc avec la voiture autonome, c'est le même problème, mais multiplié par 10, par 100.
Alors, nous avons parlé de l'esthétique tout à l'heure en première partie d'émission. Quand on voit la tête des voitures autonomes de test aux États-Unis, avec toute la machinerie autour, on se demande comment on va pouvoir faire quelque chose de joli avec, toutes ces contraintes. Alors, comment prendre en compte les contraintes techniques dans l'élaboration du design extérieur de la voiture, Philippe Nemeth ?
Je ne suis pas très inquiet là-dessus. La technologie va... On va miniaturiser tout ça. Regardez les airbags, le volume que prenait un airbag il y a 30 ans en termes de combien de centimètres cubes ça prenait dans la planche de bord ou dans le volant. Donc on va vers une miniaturisation de tout ça. Donc je reparle du Citroën 1919 concept car où les empennages à l'arrière, donc inspiration aérodynamique, intègrent tous les capteurs. Et donc, alors bien sûr, c'est un concept car, c'est pas la réalité, mais on peut imaginer avec l'évolution de la technologie que tous ces capteurs, on a l'image de la Google Car avec une espèce de tour de contrôle sur le toit, tout ça, ça va être miniaturisé. À partir du moment, ça sera dupliqué en série, en centaines d'exemplaires, en milliers, en dizaines de milliers, voire en millions. Souvenez-vous de la Prius, à partir du moment où ils ont fait 1 million, puis 2, la technologie est complètement rodée, donc forcément le prix de revient par voiture.
Alors, ça c'est un sujet qui on a évoqué tout à l'heure, la dimension méta, système. Je crois que tout simplement, la complexité nouvelle qui amène ces éléments un petit peu comme des rajouts, et en plus pas encore miniaturisés, je pense que une des choses, et je le crois d'ailleurs très sincèrement, une des choses qui va être accélérée, c'est aussi les conceptions grâce au numérique, qui permet d'intégrer très très tôt ces données dans la conception automobile. De designer et de concevoir dans des environnements virtuels permet d'essayer, de tenter, de simuler énormément de solutions et donc de converger très très vite sur les meilleures. Donc ça, c'est l'association de ces technologies de conception numérique, la possibilité pour les designers de finalement garder... je dirais cette exigence de beauté, de style, de cohérence, de proportion, et pour les ingénieurs finalement d'avoir un guide par le fait même que cette conception est simultanée, instantanée dans les environnements virtuels. Donc ça, ces outils de conception vont accélérer considérablement l'intégration de ces technologies. Autre chose aussi, les matériaux. Très clairement, on ne raisonne pas. Aujourd'hui, on raisonne avec des constructions et des modes de mise en œuvre automobiles, mais qui nous viennent d'un autre ère, qui nous viennent du XXe siècle, avec des carrosseries qui sont en fait du métal frappé, totalement intégré, alors qu'aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de matériaux plastiques qui ont des qualités. Enfin, quand je dis plastique, c'est très très large. Hein, c'est toute la gamme des composites, plus ou moins chers, mais qui permettent d'intégrer des fonctions au moment même de leur fabrication. Donc, on voit par exemple des capteurs intégrés au bouclier, et ça dans une seule et même opération, à la fois de conception et de fabrication. Donc, toutes ces technologies sont liées au fait que justement maintenant, on peut concevoir virtuellement des options de construction, d'architecture, de packaging, ce qu'on appelle le packaging de ces technologies, qui vont bien évidemment, avec l'effet d'échelle dont parlait Philippe, réduire en taille, mais aussi être de manière de plus en plus pertinente, placée au bon endroit, utilisés et testés dans des outils de simulation qui permettent de les optimiser avant même de les voir réellement être pratiqués dans la rue. Et si j'allais jusqu'au bout, la dimension de flotte et de système de ces véhicules qui fonctionneraient ensemble et connectés les uns par rapport aux autres, puisque la voiture autonome se doit d'être connectée, très clairement, c'est aussi des choses que l'on peut gérer et simuler dans des environnements virtuels. On peut reproduire des territoires entiers, des infrastructures, faire des tests d'infrastructures, faire des tests d'investissement, en faisant des simulations d'usage de flotte en fonction des profils démographiques, en fonction des cultures et des régulations en vigueur sur le territoire. Donc, en réalité, les outils du virtuel, les outils de la simulation vont de toute façon permettre d'accélérer les bons choix en matière justement de priorité pour la séquence de la voiture autonome.
Et alors, tout à l'heure, on parlait de méridienne, de luxe aussi concernant les voitures autonomes. À quoi ça va ressembler l'intérieur d'une voiture autonome ? Là, en plus, c'est votre terrain, tous les deux.
Philippe Nemeth.
Alors, c'est peut-être pas tant la voiture autonome, c'est peut-être d'abord la voiture électrique. La voiture électrique, généralement la voiture autonome dont on parle, cette voiture électrique. Hier soir, Yann Kalum, ex-chef designer de Jaguar, il a pris sa retraite, il a ouvert sa propre agence, il était pendant plus de 10 ans chez Jaguar. On lui a posé la question, quelle est votre voiture, votre préférée ? Alors il a répondu, bon, c'est comme des enfants, c'est un petit peu dur de... Et à la fin, il a parlé de la I-Pace, qui est la grosse berline SUV, toute électrique. Et ce qu'il disait, c'est tout à fait intéressant. On était, la motorisation électrique a donné des libertés, une liberté extraordinaire dans ce que Anne évoquait, le package. Donc c'est le package, c'est la disposition des passagers à l'intérieur de la voiture. À partir du moment où les moteurs sont soit sur les essieux, soit dans les roues, le pack de batterie, on peut le mettre finalement où on veut. Les voitures à moteur à combustion interne, les moteurs essence ou diesel, étaient la ligne, la silhouette, le package était influencé par la position du moteur. Pourquoi une BMW n'avait pas beaucoup dans les années 80 de place au siège arrière ? Parce que le moteur était placé en longueur, il prenait plus de place et c'était les roues qui étaient arrière motrices. Donc tout ça, ça a influencé. Donc je pense que, avant de parler de voiture autonome, c'est la voiture électrique qui donne une flexibilité, une versatilité incroyable à l'intérieur de la voiture. Et donc on peut imaginer plein de choses.
On avait imaginé chez General Motors, dès 2002, l'autonomie, qui était un projet qui permettait de tout ce qui était plateforme roulante, enfin ce qu'on appelle la plateforme ou le pack roulant avec moteur roue électrique, pack électrique, sous la forme du nom d'un skateboard. Aujourd'hui, c'est une technologie et une approche de package et d'architecture qui va certainement prendre énormément d'importance à l'avenir, à la fois pour justement le développement de la voiture électrique, mais aussi toutes sortes et de formes de la voiture autonome. Qu'est-ce que ça nous donne en matière de liberté de design ? Eh bien, c'est de reconcevoir de nouveau, entre guillemets, la cabine, la capsule, je dirais l'habitacle, sous une nouvelle forme, et avec bien évidemment énormément de liberté, c'est-à-dire beaucoup moins d'ingérence, entre guillemets, des aspects mécaniques dans la cabine, et donc une cabine qui va se libérer et qui fera probablement une place beaucoup plus belle, encore plus de confort, encore plus de mouvement et de capacité de se déplacer, de se mouvoir au sein de la cabine. Aujourd'hui, on est coincé dans un siège, on a une ceinture de sécurité, on a des planchers qui sont rarement plats parce que justement, il faut faire passer toutes ces conduites mécaniques. Ajouté à l'électrique, je tiens à préciser que l'idée du skateboard, c'était aussi que toutes les commandes étaient électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de câbles, tout se fait comme finalement lorsque vous dockez votre téléphone sur une recharge par induction. Donc tous ces éléments-là, finalement, libèrent totalement le designer. Mais par contre, paradoxalement, on est en phase de transition, c'est-à-dire que les designers ont des capacités en effet de s'exprimer. Mais on est dans une phase où on passe de la référence et de l'archétype automobile tel qu'on le connaissait vers un inconnu. Donc c'est d'ailleurs d'autant plus important de laisser s'exprimer les designers, comme ils le font dans le Young Designer Award du festival, là, à l'occasion de cette exposition et de la cérémonie du festival. on vient voir l'expression du futur entre les très beaux dessins et rendering des designers, des jeunes designers. Par contre, en effet, on ne sent pas encore une direction très nette parce qu'on est dans une forme encore très libre et sans contrainte. Paradoxalement, trop d'imagination, trop de liberté ne permet pas finalement de définir un résultat final sur lequel on pourrait dire, voilà, c'est la voiture de demain, celle qu'on va conduire dans les 10 ans qui viennent.
Alors, maintenant, pour la sécurité, si on veut pouvoir conduire cette voiture de demain, on a besoin d'avoir confiance en elle et dans le programme qui la pilote. Alors, question sécurité, quels sont les principaux problèmes techniques ?
Je pense que, comme le disait Anne, c'est le bug.
C'est le bug.
Ça vous est déjà arrivé que votre ordinateur, qu'il soit équipé d'un OS Windows ou Mac, ou votre téléphone, ait un moment un bug, une mise à jour qui se passe mal. Et donc je pense que le zéro défaut, à moins de doubler tous les systèmes, comme ça se fait en aviation. Donc on pourrait, et ce ne sont pas les composants électroniques qui vont coûter forcément cher dans le futur, donc éventuellement doubler toutes les commandes. La marque Rolls-Royce avait cette approche dans les années 50, 60, 70, de doubler, tout était doublé. En cas de panne de sécurité, il y avait par exemple deux étriers de frein sur les roues avant qui ne servent strictement à rien côté efficacité, mais just in case. Donc je pense que c'est le bug. S'il n'y avait pas de bug, il n'y a pas de problème. La voiture, si on est sûr qu'il n'y a pas de bug, bah on fait des petites banquettes sans ceinture et tout va bien. Mais c'est effectivement à partir du moment où on n'est pas 100% sûr, et si on a une mixité de conduite manuelle, si on a un scooter ou une patinette électrique, un vélo qui ne va pas forcément faire attention, quelqu'un qui a un casque sur les oreilles, et l'accident, il peut arriver.
On va faire énormément de progrès sur la voiture et sur les capteurs, sur la reconnaissance, enfin tout ce qu'on appelle la reconnaissance, je cherchais le mot en français, malheureusement c'est l'anglais qui vient systématiquement. Tous ces aspects-là, de tout ce qui est imprévisible et quelque chose qui dans le temps va se gérer. Je vous parlais de simulation, je pense qu'on va tendre énormément de scénarios, on va mettre en place du machine learning pour que les algorithmes processent un nombre considérable de données. Donc avec ces capacités de calcul, on va rapidement réduire jusqu'à sa plus simple expression, et la voiture autonome arrivera à un niveau, je dirais, satisfaisant de sécurité. Pour autant, une fois qu'on aura, c'est comme pour les avions, aujourd'hui les avions sont entièrement réalisés de manière virtuelle, toute la simulation, décollage, atterrissage sont faits en virtuel. Le premier avion qui est fabriqué n'est pas un prototype, c'est un avion qui vole et qui sera utilisé avec des personnes à bord. Ça ne fait peur à personne parce qu'en finalement, on sait que le voyage aérien est produit assez peu d'accidents. Il y en a, bien évidemment, mais assez peu d'accidents. La voiture, on vient de très loin. Donc, je pense que le débat, il est plus psychologique qu'autre chose. Il faudra peut-être trouver des moyens différents. Je pense aux jeux vidéo, je pense aux approches peut-être un peu nouvelles des permis. Pourquoi on ne passerait pas des permis via des modèles de serious game et de simulation qui permettraient finalement de préparer les humains à rouler ou à vivre dans une voiture autonome. Tout simplement parce qu'il faudra qu'ils soient préparés à faire confiance à un objet qui, lui, aura sa garantie de sécurité.
Alors justement, vous anticipez un peu la question suivante. En cas de problème, est-ce qu'il y aura un moyen pour les humains de pouvoir réagir à une situation d'urgence dans la voiture autonome ?
C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il faut, dans la voiture autonome qui serait vraiment sûre, est-ce que de revenir à un comportement humain sera la meilleure des solutions ? On ne le sait pas. Cette adéquation entre l'humain et la machine est hétérogène. Et un système hétérogène, on le sait, n'est pas fiable. Donc, c'est une vraie question de régulation. Je pense qu'il va falloir simuler énormément d'hypothèses qu'on n'a encore pas fait déjà même dans des contextes d'un milieu stable, je dirais stable, c'est-à-dire une connaissance culturelle, technologique, sociologique des acteurs en place. Malgré tout, je pense qu'on peut prendre la décision que prennent, par exemple, que prend la RATP. Hein. Il y a des métros autonomes, des métros pilotés avec des conducteurs. Une ligne autonome est 100% autonome. Okay. Et piloter avec les conducteurs, c'est voilà. Donc moi, je pense que là, on voit déjà dans le ferroviaire l'illustration de ce qui pourrait être un début, de combinaison hybride de véhicules autonomes qui seront des véhicules de partage dans des circuits très bien balisés, sur des pistes peut-être, très normées, sur lesquelles il y aura un renforcement justement de l'usage de ces pistes. Je sais pas, mais il y a des histoires absolument incroyables. Si vous allez en Californie, qui est quand même l'endroit où les, ou à l'Arizona, en Phoenix, ils ont fait énormément d'études. Vous avez des individus, voire des enfants, qui s'amusent à faire bugger des voitures autonomes parce que ça les amuse de se mettre devant et la voiture s'arrête et elle s'arrête à chaque fois que le gamin joue en se mettant tout simplement en présence du capteur et ça peut durer des heures. Mais ceci dit, vous pouvez faire ce test avec une tondeuse autonome ou un aspirateur dans votre maison et vous avez déjà ce qui peut finalement être la vision de ce qu'on aurait des voitures autonomes si on laissait faire finalement un humain complètement libre et des pauvres machines qui ne peuvent réagir qu'avec un algorithme de programme qui sera toujours aussi limité que ce qu'on aura bien voulu inscrire dedans. Donc voilà.
Pour aller plus loin, on a posé aussi la question de qui est responsable en cas d'accident entre une voiture autonome et un piéton, ou entre une voiture autonome et une voiture qui ne serait pas du même niveau d'autonomie en tout cas. Nous avons posé cette question à Jean-François Bonnefond, question que je vous invite à écouter en podcast sur radiocampusparis.org/latome-2-savoir, puisque c'est la fin de notre émission. Patience à vous avant de voir débarquer totalement les voitures autonomes dans les rues. Merci à Anne Asensio, je rappelle que vous êtes vice-présidente du design chez Dassault Systèmes, et merci à Philippe Nemeth, vous êtes formateur et consultant en design industriel.
Merci à vous.
Une chose dont nous avons un peu parlé, c'est la sécurité informatique des voitures de demain. Et heureusement, Vadim est là pour nous donner des exemples et un aperçu général de cryptographie et de chiffrement.
Aujourd'hui, la data est au centre du business mondial. Ce n'est plus le pétrole qui donne le la à l'économie. Et si on regarde même au plus près, dans le top 10 des entreprises du CAC 40 par capitalisation boursière, il y a 8 entreprises qui sont dans le domaine de la data. Amazon fait d'ailleurs bien plus de chiffres d'affaires avec son service de cloud qu'avec son site de vente. Mais voilà, aujourd'hui, les données doivent être protégées des personnes et des entreprises malveillantes qui pourraient les utiliser à notre insu. C'est là que le chiffrement rentre en ligne de compte et devient l'un des domaines les plus importants pour le présent mais aussi pour le futur. Je vais essayer de vous expliquer les principes, les notions de base de cette science complexe et souvent incomprise. Alors qu'est-ce que la cryptographie ? Eh bien c'est le domaine qui consiste à protéger un message ou une information, en assurant bien sûr sa confidentialité, donc la protection, mais aussi l'intégrité du message. C'est le fait que le message soit réceptionné, qu'on reçoive par exemple le même message à l'arrivée qu'au départ. Il y a un intérêt historique à la cryptographie. Par exemple, durant les guerres, c'était très utilisé pour protéger les messages ou les informations, par exemple sur les informations sur les ravitaillements. C'était très utilisé. Mais il y a aussi d'autres choses. Hein. Et on remonte par exemple à 1500 ans avant Jésus-Christ pour trouver les premières traces de cryptographie. César d'ailleurs était un grand utilisateur de la cryptographie, c'est dire. On utilise divers algorithmes pour chiffrer et déchiffrer les messages. Et là, ça se complique. Ouh là là, quand on parle d'algorithmes, les maths ne sont pas très loin. Alors quoi de mieux qu'un petit exemple pour vous expliquer tout ça. La guerre gronde aux portes de l'Europe. Les troupes ennemies sont en train d'envahir la France. Les Français, qui sont à la frontière, souhaitent envoyer un message à la capitale pour prévenir de l'arrivée des ennemis. Leur chef a une idée pour se sortir de cette situation. Alors, le message qu'il doit transmettre est le suivant. La France va être envahie. Les ennemis sont bientôt aux frontières. Le chef a la bonne idée d'inverser les lettres de l'alphabet pour crypter son message. C'est ça, son algorithme de cryptage. Le A devient des Z, le B devient des Y, et du coup, le message qui était d'abord celui que je vous ai énoncé devient OZ TISM MX EGIV. Vous me permettrez de ne pas lire ce message, c'est pas très lisible. Mais voilà, vous avez compris le principe. Maintenant que c'est chiffré, le moyen de le décrypter est de connaître le procédé qu'il a utilisé pour crypter ce message. C'est ça, la clé de chiffrement. Dans d'autres cas, elle peut être un chiffre, un mot, une phrase. Bon, dans le nôtre, c'est le procédé, donc l'inversion des lettres. Bien entendu, il est possible qu'une personne qui ne connaisse pas la clé puisse déchiffrer le message. C'est la durée de décryptage qui détermine si l'encodage est efficace. Le but est bien entendu que cette durée soit très grande. Le message est intercepté par les taupes. À premier abord, un message qui est incompréhensible, mais quand on en regarde bien de plus près, on remarque que certaines lettres se répètent comme dans la langue française. C'est-à-dire que par exemple, le E est une langue qui est très utilisée. Donc, si on reprend à la même fréquence, on peut donc déduire que par exemple, les V sont des E. Parce que dans notre message, il y a beaucoup de V. Donc, on peut émettre l'hypothèse que c'est cette lettre-là, et on peut donc tenter beaucoup plus facilement de décrypter le message. Le procédé est basique, mais le chef avait pensé à tout. Et pour son algorithme de décryptage, il a rajouté une étape au dernier moment. Chaque lettre de la phrase correspondant à un chiffre, la première à 1, la deuxième à 2, et ainsi de suite. En fonction de ce chiffre, on décale la lettre dans l'alphabet. Par exemple, la première lettre de notre message crypté était un O. On la décale de 1 dans l'alphabet, ce qui donne un P. La deuxième était un Z, on la décale de 2, ce qui nous donne un B, et ainsi de suite. Et l'addition de ces deux étapes rend le décryptage du message beaucoup plus complexe. Le message parvient au taupe, mais sans clé de décryptage, il n'arrive pas à la décrypter. Et donc, le message va à son cours, arrive à la capitale, et les Français ont maintenant la possibilité de savoir qu'il y a des ennemis à leurs frontières, car eux étaient bien au courant de la clé de cryptage. Voilà, avec cet exemple assez simple, je vous expliquais quelques notions basiques du cryptage, mais il en existe bien d'autres. Le cryptage est quelque chose de très complexe, et si ça vous intéresse, je vous conseille de vous documenter dessus, ça sera beaucoup plus facile.
Merci Vadim, c'est la fin de cette émission, réalisée comme toujours par Bruno Liuzzi. Merci beaucoup Bruno d'avoir réalisé cette émission dans des conditions particulièrement difficiles. Merci à vous de nous avoir suivis aussi, merci également à l'exposition Concept Cars de nous avoir accueillis. D'ailleurs, si vous êtes passionné d'automobile, de design ou simplement curieux, vous pouvez venir admirer les derniers concept cars aux Invalides jusqu'au 2 février. L'Atome de Savoir revient le 27 février sur Radio Campus Paris avec Jade qui vous prépare un numéro sur l'avenir de la permaculture. En attendant, vous pouvez écouter et réécouter cette émission ainsi que notre entretien avec Jean-François Bodefond sur radiocampusparis.org à partir de samedi et nous suivre sur les réseaux sociaux L'Atome de Savoir sur Twitter et Instagram où Johanna, notre attachée de production, vous réserve des surprises entre chaque émission. A très vite et en attendant, portez-vous bien.